Il est 8h.
Si vous comptez les votes légaux, je gagne facilement. Si vous comptez les votes illégaux, ils peuvent essayer de nous voler l'élection.
La toute dernière sortie en date d'un président sortant qui doute, s'impatiente, multiplie les accusations de fraude sans preuve, au point que plusieurs télévisions américaines ont interrompu sa déclaration cette nuit depuis la Maison-Blanche. Nous serons à nouveau à New York en direct, ainsi qu'au téléphone avec une porte-parole des démocrates en France. Et bien sûr, un point sur le décompte des voix plus serré que jamais. À la une aussi, ce matin, une semaine après le reconfinement, un ministre de la Santé extrêmement inquiet.
En toute transparence, la situation, elle est tendue, c'est rien de le dire. Nous devons nous ressaisir et nous devons continuer à nous battre.
Olivier Véran appelle à respecter au mieux le deuxième confinement. Nous verrons que les contrôles de déplacement sont assez peu nombreux. Et puis, la crise au cœur des lycées, Jean-Michel Blanquer contraint de lâcher du lest et de corriger déjà le format du bac 2021.
Juste après ce journal et après une semaine de confinement, la question du consentement de la population reste posée. Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne et président de Debout la France, il répondra aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. Bienvenue sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il n'avait pas pris la parole depuis plus de 24 heures et avait même mis en sourdine sa passion frénétique des tweets. Voilà qu'à 1h du matin, heure de Paris, 19h sur la côte est des États-Unis, l'un des pics d'audience de la journée, le président candidat Donald Trump est entré dans la salle de presse de la Maison-Blanche pour une déclaration retransmise aussitôt sur toutes les télés du pays. Il renouvelle ses accusations de fraude électorale.
There are tens of millions of unsolicited ballots without any verification measures whatsoever.
Well, we're interrupting this because what the President of the United States is saying, in large part, is absolutely untrue.
Extrait du direct à la télévision américaine. Ça, c'était la chaîne NBC, mais d'autres chaînes ont fait de même. Bonjour Xavier Yvon.
Hello, bonjour à tous.
En direct de New York ce matin. Moment assez extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé, Xavier ?
Il s'est passé qu'en ce moment où le pays et le monde attend en haleine la fin du dépouillement dans les derniers États, eh bien le président des États-Unis a pris la parole depuis la Maison-Blanche à l'heure des journaux télévisés pour dire qu'il a gagné, qu'on est en train de lui voler l'élection et que eh bien, la plupart des télévisions américaines, notamment les trois plus grandes chaînes de télé, hein, NBC, CBS et ABC, eh bien, ont décidé d'arrêter de diffuser Donald Trump au bout de quelques minutes. Trop de mensonges, trop de contre-vérités ont expliqué les présentateurs de ces télés, parce que ces votes illégaux dont parle Donald Trump, ce sont en fait les bulletins par correspondance, ceux-là même que l'on compte en ce moment et qui lui font perdre son avance sur Joe Biden. On le savait, c'était prévu que ces votes seraient à majorité démocrate, mais le président tente de les disqualifier sans apporter aucune preuve de ce qu'il avance. Même Fox News, après son allocution, a bien précisé que les accusations de Donald Trump n'avaient aucun fondement. Un Donald Trump qui avait l'air sombre et fatigué et qui semble isolé dans son combat. Il n'est pas tellement soutenu dans son camp. Pour l'instant, le silence des principaux responsables républicains est assez éloquent et il énerve d'ailleurs ses deux fils, les deux fils du président, Eric et Donald Jr., qui appellent les républicains sur Twitter à se battre pour leur père. Comment les supporters du président, eux, vont-ils réagir ? C'est évidemment la question qui inquiète. On vient d'apprendre qu'un homme armé a été arrêté par la police de Philadelphie et selon les premières informations, il avait l'intention de s'attaquer au centre de dépouillement de la plus grande ville de Pennsylvanie, là où justement sont comptés en ce moment les derniers bulletins.
Xavier Yvon à New York pour Europe 1, vous restez connecté avec nous.
Bonjour Amy Porter.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole du Parti démocrate américain en France, Democrats Abroad France. Il y a le décompte, l'attente, mais il y a aussi le match des mots. Joe Biden affiche une forme de sérénité. Personne ne nous prendra notre démocratie, dit-il sur Twitter. Dans cette grande tension, vous allez juste faire le dos rond et attendre sagement que le dépouillement avance ?
Mais évidemment, parce que les chiffres sont de notre côté. Quand je regarde ce qui s'est passé cette nuit, dans les États où Trump avait une avance, la marge se réduit de minute en minute. Il n'a plus que 1800 voix d'avance en Géorgie. Il reste des dizaines de milliers de bulletins à dépouiller. Les chiffres sont de notre côté.
Et puisque la bataille a lieu aussi sur le terrain judiciaire, est-ce que vous pouvez, vous aussi, démocrate, lancer des procédures ou bien contrer celles qui sont lancées par l'équipe de Donald Trump ?
Alors, je vous rassure que l'équipe Biden a une armée d'avocats qui se tient prêt à contrer tout ce qui se passe. Je dirais juste que les trois actions en justice déjà lancées par le côté Trump ont déjà été déboutées parce que sans fondement. Donc, il ne fait pas ça, enfin, Trump ne fait pas ça pour gagner, il fait ça pour distraire, pour semer la confusion et le chaos comme à son habitude.
Et en coulisses ou publiquement, est-ce que vous appelez vos collègues du parti d'en face, les républicains, à ne pas suivre le président Trump dans ses accusations ?
Ah mais moi, je ne peux rien leur dire. De toute façon, ils sont comme des moutons. Ils vont le suivre jusqu'au bout. Tout ce que Trump a dit depuis les dernières 24 heures est un tissu de mensonges et tout le monde le sait. Il ne peut pas s'autoproclamer le gagnant. Moi, je peux m'autoproclamer championne olympique, ça ne serait pas vrai pour autant. Donc, on attend patiemment. Je pense qu'on aura les résultats de la Pennsylvanie en fin de journée, donc fin de journée vendredi, peut-être cette nuit, heure de Paris. Et une fois que la Pennsylvanie tombe dans l'escarcelle de Biden, c'est terminé.
Merci, Amy Porter, porte-parole de Democrats Abroad France, invitée du journal de 8 heures d'Europe 1 en direct.
Vous êtes toujours avec nous, Xavier Yvon, en direct de New York, où vous suivez vous surveillez même le décompte hein, dans les quatre États clés qui peuvent faire basculer le scrutin, avec des écarts qui se sont encore resserrés ces dernières heures.
Oui, alors on va faire un point qui ressemble un peu à un but par but. Hein. En Géorgie, où c'est le plus serré, Joe Biden n'a plus que 1267 voix de retard. Donc, vous voyez, par rapport au journal de 7h où je vous ai fait un dernier pointage, ça veut dire qu'il a gagné 200 voix en une heure. Il reste moins de 1% des bulletins à dépouiller. On continue aussi à compter dans le Nevada, dans l'Arizona, encore indécis pour certains médias. Et bien sûr, en Pennsylvanie, votre invité en parlait. Là aussi, l'écart se réduit de manière spectaculaire. Il a été divisé par deux en deux heures. On en est à 18 000 voix d'écart. Il reste 175 000 bulletins à dépouiller. Joe Biden va passer devant, si l'on en croit les spécialistes des cartes électorales. La Pennsylvanie, c'est la dernière pièce du puzzle. Si Trump la perd avec ses 20 grands électeurs, c'est terminé.
Xavier Yvon, notre tour de contrôle à New York, vous nous disiez 1200 voix d'écart en Géorgie, dans un État qui a dépouillé plus de 5 millions de votes à présent.
Il est 8h07, retour en France, une semaine après ce nouveau confinement. Nous dressons des bilans ce matin sur Europe 1. Le ministre de l'Intérieur l'assure, ce reconfinement se fait sous la surveillance des forces de l'ordre. Il donne le chiffre de 35 000 verbalisations depuis une semaine.
Deuxième confinement, en apparence plus souple que le premier, avant tout car les enfants vont à l'école et on peut bien sûr les y accompagner. Nous avons voulu tester la réalité de ces contrôles d'attestation.
Nous avons demandé à Stéphane Place, le correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Ouest, de faire le test. 300 km dans la journée, Bordeaux, Périgueux, en empruntant différents axes.
Nous voici donc partis, on roule tranquillement dans l'agglomération bordelaise. Nous sommes en début d'après-midi, on passe plusieurs ronds-points et pour l'instant, on n'a pas observé le moindre contrôle. Et on va se diriger vers la rocade, on va franchir la Garonne. On va quitter la Nationale 89 pour rejoindre cette fois-ci l'autoroute. Et on s'approche à l'instant même du péage en direction de la Dordogne. Pas de contrôle au péage. Petit arrêt sur l'aire de repos des Palombières. Et on va en profiter pour demander à ces automobilistes s'ils ont été souvent contrôlés.
Pas du tout.
Et là, ça fait combien d'heures que vous roulez?
Deux heures et demie à peu près.
Ça a l'air beaucoup moins sévère que la première fois.
Allez, on fait un crochet par les hauteurs de Périgueux. On est en train de traverser un village. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous avez été contrôlé, vous, depuis le début du confinement?
Non, pas encore. Le début de mars, là.
Au printemps?
Oui, là j'ai été contrôlé trois fois, quatre fois.
Rentrée de Périgueux, nous avons emprunté les petites routes pour traverser le vignoble. Les arbres se parent des couleurs automnales. Et il n'y a pas de bleu à l'horizon, aucun contrôle des attestations.
On entend donc cet instantané, hein, cette réalité d'un trajet effectué par Stéphane Place pour Europe 1. Voici la parole, l'explication aussi en quelque sorte, venue d'un policier, Christophe Emery, délégué local à Lyon du syndicat SGP Police et lui-même est CRS autoroutier.
Il est vrai qu'on n'applique pas, on ne fait pas des contrôles spécifiques Covid, puisque de toute manière, voilà, les 4/5 des gens qui sont à l'extérieur sont des gens qui sont en droit de l'être. On le sait tous, hein, l'attestation, on peut se déplacer pour aller chercher les enfants à l'école et les ramener 4 fois par jour. On peut aller faire nos courses, on peut continuer à faire quasiment tous nos déplacements. Donc, mis à part qu'on ne peut pas changer de région, c'est à peu près la seule limite. De par cette configuration, on ne peut pas contrôler tout le monde. Conjugué au fait aussi qu'on est quand même en vigipirate urgence attentat, on ne peut pas être partout et s'occuper de tout en même temps.
Christophe Emery, délégué local à Lyon du syndicat SGP Police, au micro européen de Justin Morin. Dans ce contexte où les contaminations explosent, 58 000 recensés hier, et où le gouvernement menace de sanctions les entreprises réticentes au télétravail, cette information, Europe 1, seul un fonctionnaire sur trois est en capacité de télétravailler aujourd'hui. C'est même nettement moins que lors du premier confinement où l'on était à 1 sur 2.
Il y a aussi la question des congés payés. En effet, il reste à la charge des entreprises lorsque les salariés sont en chômage partiel. Un dossier qui s'annonce délicat à gérer, Carole Ferry.
Mais écoutez, le problème qui est sur la table, c'est que lorsqu'un salarié est en chômage partiel, il ne travaille pas, mais il continue à accumuler des jours de congés, 2 jours et demi par mois, des congés payés qui restent à la charge des entreprises. Et quand il y a plusieurs salariés, eh bien la facture peut rapidement grimper. C'est ce qui s'est passé par exemple pour Romain Bergot pendant le premier confinement. Il dirige un restaurant à Paris.
J'ai fermé pendant trois mois. Donc chaque salarié cumule ses congés payés. 2,5 jours par mois, fois 3 mois, fois 11 salariés. Ce qui représente au minimum 10 000 euros de congés payés à sortir. Sauf que pendant ce temps-là, on était fermé. Donc du coup, on ne faisait pas de chiffre d'affaires. C'est de l'argent qu'il faut sortir, alors qu'en face, il n'y a rien qui rentre, il n'y a pas de chiffre d'affaires, pas d'activité.
Alors l'UMI, l'Union des métiers de l'industrie et de la restauration, demande à l'État d'intégrer ces congés payés dans la prise en charge de l'activité partielle. Pas question, répond le ministère du Travail, qui propose plutôt de revoir l'accord sur les congés payés en période d'activité partielle. Autant vous dire que l'idée fait bondir les syndicats. Selon nos informations, les premières rencontres sont prévues fin novembre.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1.
La deuxième vague, ce reconfinement partiel qui sème la pagaille dans les lycées. Il y a cet appel à la grève pour mardi d'enseignants qui disent ne pas pouvoir mettre en application le contrôle sanitaire.
Bonjour Virginie Riva.
Bonjour.
Le ministre Jean-Michel Blanquer tente de calmer ce début de grogne.
Oui, Jean-Michel Blanquer annonce un renforcement du protocole sanitaire au lycée avec cette consigne. Il devient possible pour tous les chefs d'établissement d'organiser des cours à distance sous réserve de conserver au moins la moitié des cours en présentiel. Chaque proviseur fait ensuite comme il le souhaite dans son lycée, soit en divisant la classe par deux, par demi-groupes, avec une moitié des élèves en présentiel, l'autre à distance, une mesure pertinente dans les classes surchargées, soit en organisant 1 à 2 jours de cours à distance ou encore en accueillant les élèves par niveau, par exemple une semaine de cours en présentiel pour les secondes, puis la semaine suivante pour les premières et les terminales. Rien n'est imposé de manière uniforme sur le territoire, les lycées à faible effectif pouvant continuer en 100% présentiel.
Virginie, il y a cette autre annonce qui concerne, on est début novembre, qui concerne déjà le bac 2021.
Oui, c'est la réforme de Jean-Michel Blanquer et pour la deuxième année consécutive, sa réforme du lycée et donc du bac est ajournée. Le ministre a annoncé l'annulation pure et simple de toutes les épreuves d'évaluation communes de première et de terminale au profit du contrôle continu, à l'exception des épreuves de spécialité qui seront adaptées mais auront bien lieu en mars, ceci afin de tenir compte des conséquences de la crise sanitaire sur la préparation du bac.
Virginie Rivage ajoute ces remontées d'incidents lors de l'hommage au professeur Samuel Paty à la rentrée lundi. 400 incidents recensés dans les établissements scolaires, 160 cas notamment de refus de participation ou de perturbation de la minute de silence.
Et puis on va s'aérer un peu l'esprit, humer l'air du grand large et s'imaginer filer à toute vitesse sur un voilier pour un tour du monde.
Oui, je crois qu'on en a besoin. C'est ce que va faire en tout cas Charlie Dalin, skipper au départ du Vendée Globe dimanche et qui est venu ce matin nous en parler sur Europe 1.
Ça ressemblera à n'importe quelle sortie en mer, d'un peu à l'image d'un match de foot qui se joue sans supporter. Après, une fois que le départ sera donné, ça changera strictement rien à une course hors crise sanitaire. Par contre, j'ai l'impression que ça nous donne encore plus pour mission de partager notre aventure avec les terriens, à faire voyager un petit peu le public pour penser à autre chose que cette année épidémique.
Charlie Dalin qui nous racontera sur Europe1.fr et sur toutes vos applis de podcast tous les samedis à 11h son épopée autour du monde.
Merci François Geffrier, c'était le journal de 8h sur Europe.